Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mardi 16 novembre.
Oui, on est très heureux de commencer la journée avec vous, bien avant que le soleil ne se lève. À la une ce matin, je veux dire.
L'ouverture du 103e congrès des maires de France, on va y revenir tout de suite dans le journal. Et puis il y a ça. The Wall en anglais, le mur en français, Ściana en polonais. Voilà ce que Varsovie annonce vouloir construire dès le mois prochain à sa frontière avec la Biélorussie. Réponse à la situation migratoire toujours aussi critique aux portes de l'Europe. Dans l'actualité, on bline également la flèche de la discorde.
Oui, la flèche de la basilique de Saint-Denis en région parisienne est au centre de toutes les attentions. Figurez-vous, ces dernières semaines, la basilique cathédrale Saint-Denis est un chef-d'œuvre de l'art gothique, joyau du patrimoine français réputé pour abriter la nécropole. Métropole des rois de France. Sa flèche et son clocher démontés en 1846 après d'importantes intempéries devraient renaître. Après avoir été plusieurs fois repoussé, le chantier devrait débuter en janvier prochain, en commençant par des fouilles archéologiques.
Sauf que ce projet est décrié par des historiens, des chercheurs et des universitaires.
Voilà, ils craignent notamment une détérioration de l'édifice. Nous serons à 5h40 avec l'un des opposants à la nouvelle flèche de Saint-Denis, l'historien de l'art médiéval, Mathieu Lejeune. On va également s'intéresser, Julien, au renouveau d'Airbus.
Un décollage, ou plutôt un redécollage fulgurant. C'est simple, depuis dimanche et l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, Airbus a engrangé 366 commandes d'avions pour environ 34 milliards d'euros au prix catalogue. Pas mal pour un avionneur qui traversait la pire crise de son histoire il y a encore un an. 15 000 suppressions d'emplois, dont un tiers en France, et plan d'aide de 15 milliards d'euros de l'État. Alors Airbus est-il déjà sauvé? Et plus largement, quel avenir pour le transport aérien à l'heure du décarbonage de l'économie? On en parle à 6h10 avec Jean Serra, consultant en aéronautique. Et puis on terminera avec votre partition, Omblin.
Oui, il est l'un des monuments de la culture hip-hop. Dr. Dre, l'un des artisans du gangsta rap sur la côte pacifique, West Coast. Devenu l'un des meilleurs producteurs et dénicheurs de pépites dans les années 90, la partition à 6h20.
Partition polie au programme. Voilà donc une partie du programme. La météo pour commencer. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour. Vous avez une très bonne nouvelle ce matin.
Oui, alors. Je lui ai parlé de bonne nouvelle ce matin.
C'est ce qui est écrit sur le papier.
Non, vous avez dit très bonne nouvelle. Moi, j'avais juste marqué
une
bonne nouvelle.
Ah, mais c'est mon côté optimiste.
Non, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont au bord de la Méditerranée. Ça y est, le temps se calme, ça va mieux aujourd'hui après les orages, après le violent coup de vent d'hier. Ça s'améliore sur les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur. On a déjà du soleil ce matin. C'est peut-être le seul endroit où il y en aura d'ailleurs. Et puis cet après-midi, le soleil revient sur le Roussillon. Il va falloir attendre un peu, effectivement, parce qu'on a quelques averses ce matin entre Perpignan et Montpellier. Alors, la tramontane, elle souffle fort jusqu'à 80 km/h. Forcément, elle cherche les nuages. En Corse, sur l'ouest de l'île, on a du soleil. Sur l'est, c'est encore un peu couvert aujourd'hui. Et puis, alors, partout ailleurs, c'est une journée très automnale. On a un temps sec et gris partout. Ce matin, on a de l'humidité avec pas mal de bruine sur la moitié nord. Alors, Omblin, je suis désolée, mais on ne verra pas le soleil se lever aujourd'hui.
Ah,
le ciel va rester très, très gris toute la journée. On n'a pas de gelée, hein. 0 à Rodez. On a 5 degrés à Paris et Lyon, 10 à Perpignan et 13 à Nice ce matin.
Couvrez-vous donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. La bonne nouvelle attendra. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Une bataille pour un fauteuil. L'association des maires de France désigne son nouveau président avec un face-à-face, un gardien du temple, David Lisnard, maire LR de Cannes, et un candidat décrit comme Macron compatible, Philippe Laurent, maire centriste de Sceaux. Les explications de Jacques Serret dans un instant. Plus que jamais, Airbus prend son envol. 366 avions commandés en 2 jours au salon aéronautique de Dubaï. Une bouffée d'air frais pour le secteur qui sort tout juste de la pire crise de son histoire. Trop dépendant de l'avionneur, les sous-traitants ont dû se réinventer pour ne pas son vrai reportage dans ce journal. Et puis les Bleus au pays du Père Noël. Dernier match de l'année pour eux ce soir. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, les hommes de Didier Deschamps vont en Finlande, l'esprit serein. Mais ils veulent continuer à gagner pour tenter d'égaler un record.
Europe Matin, Omblin Rock. Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mardi 16 novembre vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Qui pour succéder à François Baroin à la tête de l'Association des maires de France ? Réponse à l'occasion du 103e congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui et se tient jusqu'à jeudi à Paris. Près de 10 000 élus sont attendus porte de Versailles pour départager deux candidats. La bataille s'annonce serrée. Jacques Serret est très suivi par l'Élysée.
Oui, d'un côté le maire LR de Cannes, David Lisnard, soutenu par le président sortant François Baroin. De l'autre, l'édile UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, Philippe Laurent. Un duel et un climat particulièrement tendu avant le vote en ligne proposé aux 35 000 maires de France. David Lisnard accuse Philippe Laurent d'être le candidat de l'Élysée, car sur la liste du maire de centre droit figurent plusieurs élus Macron compatibles. Il faut dire que le palais suit de très près ce qui se joue dans cette bataille. Depuis le début de son quinquennat, le chef de l'État a connu des relations pour le moins compliquées avec les élus locaux, en cause notamment l'hypercentralisation de l'exercice du pouvoir. Lors de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait donc sollicité la contribution des maires au grand débat. Pareil lors de la crise sanitaire où le locataire de l'Élysée en avait appelé au couple maire-préfet pour prendre les décisions localement. Autant d'élus qui aujourd'hui espèrent une reconnaissance du chef de l'État. À 5 mois de la présidentielle, c'est donc une nouvelle opération séduction qui débute pour Emmanuel Macron. Demain, il recevra une délégation de maires à l'Élysée et peu importe le vainqueur du scrutin, il se rendra jeudi clôturer le congrès de l'AMF pour à tout prix reconquérir les cœurs des élus locaux.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le scrutin débute aujourd'hui à 17h en ligne et se terminera demain à 15h avec l'annonce dans la foulée du nom du vainqueur.
Une première depuis la mi-septembre, la France vient de repasser au-dessus du seuil des 100 cas de Covid pour 100 000 habitants.
L'épidémie s'emballe partout en Europe, alors de nombreux pays serrent la vis pour l'endiguer, mais la circulation du virus est jugée comme très inquiétante par l'agence européenne chargée des maladies dans 10 pays de l'Union européenne. En France, les autorités espèrent passer entre les mailles du filet, Céline Géraud, mais certains de nos voisins n'ont pas réussi.
Oui, et c'est le cas de l'Autriche. Depuis 24 heures, les 2 millions de non-vaccinés sont confinés, les contrôles inopinés renforcés et 500 euros d'amende pour les contrevenants. Avec 815 cas pour 100 000 habitants, l'Autriche a l'un des taux d'incidence les plus élevés d'Europe et 65% seulement de vaccinés. Reconfiner une partie de la population, est-ce la bonne solution ? Philippe Amouyel, épidémiologiste.
Je ne pense pas que ce soit la solution miracle pour réduire la vague épidémique qui est en train de déferler dans certains pays européens. Et puis d'autre part, ça crée une stigmatisation de ces populations qui encore accroît les clivages qu'il peut y avoir dans la population française. Donc je ne pense pas que ce soit ni la meilleure solution, ni une solution utile à terme.
Situation dégradée aussi aux Pays-Bas. 16 000 nouveaux cas vendredi dernier. Conséquences, fermeture dès 20h, des bars, restaurants, supermarchés. Plus de spectateurs dans les tribunes, cruel pour les footballeurs néerlandais qui jouent leur place en Coupe du Monde ce soir face à la Norvège. Enfin en Allemagne, où moins de 70% de la population est totalement vaccinée, le retour massif au télétravail est imminent.
Céline Géraud. Un entretien d'1h45, celui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier sur la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur une désescalade. Dans le même temps, la Pologne a annoncé la construction d'un mur à partir du mois prochain à sa frontière. Il devrait s'étendre sur 180 km pour un budget de 353 millions d'euros.
On sabre le champagne chez Airbus, c'est la fête au salon aéronautique de Dubaï après 2 méga commandes de 366 avions au total.
111 nouveaux appareils pour Air Lease et 255 pour Indigo Partners avec qui l'avionneur signe un contrat de 33 milliards de dollars.
En Occitanie, la nouvelle est plus que bien accueillie.
Oui, hein, vous le savez, Toulouse, c'est la capitale française de l'aéronautique. La filière emploie près de 100 000 personnes, mais la crise sanitaire a révélé des failles et notamment la dépendance des petits sous-traitants vis-à-vis de l'avionneur. Reportage dans la Ville Rose de notre correspondant Benjamin Péter.
C'est des bonnes nouvelles qu'on ressort avec beaucoup de délectation, vous en doutez.
Dominique Delbuis a le sourire, mais pour le coordinateur FO d'Airbus, cette pluie de commandes doit être accompagnée par de nouvelles embauches.
Pour réussir à livrer notre carnet de commandes, c'est plus de 10 ans. Donc il faut impérativement augmenter les cadences. Augmenter les cadences, c'est réembaucher le plus rapidement possible. Le bassin d'emploi toulousain a énormément souffert, que ce soit en interne d'ailleurs ou chez nos sous-traitants. Et aujourd'hui, remonter en cadence, c'est renvoyer de l'oxygène vers toutes ces entreprises et surtout vers tous ces salariés.
Dans les Hautes-Pyrénées, Jean-Michel Seigneret dirige l'entreprise sous-traitante qui porte porte son nom. La Gamma 320, c'est à peu près 20% de son activité. Ce qu'il ne veut pas, c'est repartir comme si la crise n'avait pas eu d'impact.
L'entreprise de mon grand-père, je pense qu'elle est morte avec le Covid. Il faut que maintenant on invente, parce qu'à un moment donné, on reste une PME familiale de filière, ou est-ce que finalement, on fait de la vraie diversification. Nous, il faut qu'on soit suffisamment fort pour résister à l'appel d'air qui va être phénoménal de refaire du tout aéro pour se retrouver dans quelques temps dans la même situation.
Et il envisage notamment de travailler pour le ferroviaire, pour la filière hydrogène et va même lancer une gamme de mobilier urbain pour ne plus dépendre uniquement de l'aéronautique. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Alcool, drogue, fatigue, vitesse, inattention, la mortalité sur les routes en nette hausse.
Oui, plus 14% le mois dernier par rapport à octobre 2019, soit avant la crise sanitaire. Cela représente 37 victimes supplémentaires. La faute notamment au manque de visibilité des messages de prévention depuis le début de la pandémie. C'est en tout cas ce que pense Anne Lavaux, c'est la déléguée générale de l'association Prévention Routière.
Il faut remonter à 2012 pour retrouver un nombre de blessés aussi élevé qu'en octobre 2021. Donc il y a un vrai phénomène que notre association explique par un relâchement généralisé qui est dû également à des difficultés que l'on a à passer des messages de prévention sur les sujets de route en raison du fait que le Covid et la prévention santé écrasent un petit peu tout. Eh bien, malheureusement, les chiffres que l'on observe sur ce mois d'octobre vont peut-être nous donner raison.
Des propos recueillis par Wilfried De Villers. Pour Europe 1, dans le détail, c'est la mortalité des piétons qui explose. Elle bondit de plus de 70% par rapport à 2019.
Un scénario à la kazakhstanaise. Voilà de quoi rêvent les Bleus pour ce soir.
Un 8-0 résultat rêvé samedi dernier qui a offert à l'équipe de France de foot sa place pour la Coupe du Monde 2022. Les joueurs de Didier Deschamps disputent leur dernier match de l'année ce soir en Finlande. Et si les Français sont déjà premiers de leur groupe, ils ne doivent pas prendre froid. Les Finlandais joue gros à Helsinki, Jean-François Pérez.
Comme un air de vacances d'hiver sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki, haut lieu du tourisme local et de l'histoire du sport avec sa tour haute de 72 mètres, comme le record du monde du lancer du javelot avant les Jeux de 1952. Ici, la nuit tombe à 15h et le vent polaire vide rapidement les rues, mais les Bleus ont un travail à finir, enchaîner un 27e match sans défaite, ce qui leur permettrait d'égaler leurs aînés de 94 à 99, parmi lesquels un certain Didier Deschamps.
Ça fait partie des défis. Quand il y a des séries, on a envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Ce que je pense de l'équipe de France, c'est qu'il y a toujours ce devoir d'exigence, de performance. Et heureusement que c'est ça, et c'est le haut niveau. Avec ce grand moment de bonheur qu'on a eu samedi, il faut remettre ça.
Si pour les Français déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, l'enjeu est essentiellement symbolique, Didier Deschamps devrait d'ailleurs largement retoucher son équipe. Pour les Finlandais, c'est un match capital dans l'optique des barrages. Le suspense avec l'Ukraine est total. C'est notamment pour cela que l'on jouera ce soir à guichet fermé, en espérant forcément un petit coup de pouce du Père Noël qui joue ici à domicile. Helsinki, Jean-François Pérez, Europe 1.
Alors Finlande-France plutôt, coup d'envoi de la rencontre à 20h45 ce soir.
C'était le journal d'Alban Le Prince, merci beaucoup Alban.
Il est 5h09, les courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 510 Midtown. Remarquablement bien née cette pouliche issue du craque étalon Dubaoui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Invaincue à l'âge de 2 ans, elle vient de réaliser une saison remarquable, en concluant notamment l'été dernier à Deauville, 4e du prix Jacques Lemarois, l'une des plus belles épreuves du calendrier hippique, et elle n'a qu'à répéter cette valeur pour pouvoir ici l'emporter. Notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 10, Midtown.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les indispensables pronostics du Quintet. Vous restez avec nous pour votre indispensable pressing du mardi, votre revue de presse décalée avec au programme ce matin, Omblin.
Adèle prend en otage les usines de vinyle. Le AK des All Blacks détourné par les anti-vax et une espionne nommée Joséphine Baker. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bon réveil avec Europe 1 et avec votre pressing. Nous sommes évidemment rejoints par Martin Lange.
Bonjour Omblin,
bonjour Julien,
bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux. Pourquoi l'Europe fait face à un regain de l'épidémie, titre Le Figaro. Une vague de Covid qui se répand d'est en ouest à mesure que les températures chutent. Chauffage, internet, crédit, téléphonie, comment mieux maîtriser les charges fixes. Voilà ce que l'on peut lire à la une d'aujourd'hui en France. Chaque mois, les prélèvements automatiques représentent 35% du budget des Français. Et puis, pour le plaisir, c'est la une de l'équipe avec pour illustration Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, deux joueurs majeurs des Bleus qui affrontent affronteront ce soir, on en parlait dans le journal, la Finlande en toute sérénité, vu que l'équipe de France est déjà qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar. Voilà pour les unes. En tout cas, l'essentiel. Omblin, quel article avez-vous retenu ce matin ?
Eh bien voilà, une crise que nous n'aurions jamais imaginée possible il y a encore quelques années, celle du vinyle, l'objet vinyle, le disque. Et cette crise est particulièrement mise en exergue ces temps-ci, grâce, ou devrais-je dire, à cause de la chanteuse Adèle. C'est une enquête du magazine américain Variety relayée en France, notamment par le site de Vanity Fair et par Le Figaro. Adèle avait tout prévu pour la sortie de son nouveau disque 30 ce vendredi. Comme n'importe quel artiste, elle souhaite que ses chansons soient disponibles le même jour en streaming, sur CD et sur vinyle. Il était impensable qu'un support manque à l'appel. La chanteuse a donc pris les devants en commandant 500 033 tours. Adèle a provoqué ainsi une pénurie mondiale. Il faut dire que le secteur est de plus en plus en tension face à la demande croissante. L'avènement du CD, du disque compact à la fin des années 80, a forcé de nombreuses usines de fabrication de vinyle à se réinventer. Et bien aujourd'hui, elles se font donc rares, trop rares. Et elles n'avaient pas prévu, ces usines, que l'objet, la galette, reviendrait en force 30 ans plus tard. Ces usines de pressage sont concentrées essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne. Leurs cahiers de commandes sont surchargés, ce qui force les artistes à faire la queue pendant presque plus de 9 mois pour certains. Il faut bien comprendre que si vous ratez la date de sortie de votre disque, qu'il ne paraît le jour J donc qu'en numérique, et que le 33 tours sort quelques semaines plus tard, les ventes physiques de l'album seront réduites au final de 30 à 40%. C'est quand même pas mal.
Énorme.
Et ça, Adèle l'a bien compris, surtout à quelques semaines de Noël. Alors pour ne pas faire la queue et ne pas partir de la prise d'assaut des usines de pressage de la planète par la chanteuse britannique, eh bien son compatriote Ed Sheeran a dû accélérer la production de son propre disque pour qu'il soit disponible cet automne. Il a dû le prévoir. Les artistes importants et les grands labels peuvent encore s'en sortir. Ce qui est moins le cas pour les indépendants. Eux vont devoir prendre leur mal en patience. Beaucoup de disques ne pourront pas être gravés avant l'été 2022. Les ventes de vinyles sont en hausse depuis 2006. L'année dernière, elles ont même dépassé les ventes de CD pour la première fois depuis 1986. Le hold-up d'Adèle sur les usines de 33 tours dans Variety ou Vanity Fair.
Ce qui est incroyable, c'est que de grands artistes comme Ed Sheeran sont obligés de faire la queue derrière Adèle. C'est-à-dire qu'ils jouent des coudes pour que leur vinyle soit pressé.
Et pour raconter une petite histoire, je voulais me procurer le vinyle de Silk Sonic qui est sorti, enfin en tout cas le disque est sorti la semaine dernière, et bien il n'y a pas de vinyle. Je pense que comme ils ont avancé la date de sortie de leur album, ils n'ont pas pu encore presser de 33 tours.
Et puis il y a l'effet embouteillage, c'est-à-dire que tous les artistes ont voulu attendre la fin de la crise sanitaire pour sortir leur disque en ce moment, à cette période, et du coup...
Comme au cinéma.
Comme au cinéma, exactement. Merci beaucoup, Omblin. Martin.
Question pas facile ce matin, Omblin, Julien. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre les All Blacks et les anti-vax ?
Ça rime ?
Voilà, pas mal. J'ai pas mieux.
Non,
le
c'est pas ça.
Maillot, non ?
Non. Et si je vous fais écouter ça ? Le haka, la danse traditionnelle des Maoris, devenue le cri de guerre des rugbyman, et qui est aujourd'hui le symbole des manifestations anti-vax. Alors des haka, il en existe des dizaines. Celui que vous entendez, c'est le plus connu, le kamaté.
C'est le plus guerrier, c'est celui où ils font le geste d'étranglement.
Exactement. C'est lui qui est repris lors des rassemblements anti-vaccins. Mais une tribu, les Ngati Toa, considérés comme les gardiens culturels du Kamaté, s'opposent fermement à cette réappropriation culturelle. C'est ce qu'ils ont annoncé dans un communiqué hier. Le Kamaté, c'est cette danse guerrière, vous le disiez, Julien, lors de laquelle les Maoris simulent un égorgement. Il a été composé en 1820 par un certain Te Raoparaa, un redoutable chef de guerre, excusez-moi, c'est pas facile à dire, et il est repris depuis plus d'un siècle donc par les rugbyman tout de noir vêtus pour effrayer leurs adversaires, mais c'est surtout un pan très important de la culture locale, joué lors des grandes occasions comme les mariages ou les enterrements. Les Ngati Toa dénoncent régulièrement les utilisations commerciales de leurs rituels jugés irrespectueuses. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir coercitif, ils ne peuvent rien contre les anti-vax, mais pour le chef de la tribu, il était important d'afficher son soutien au vaccin contre le Covid. Beaucoup de nos ancêtres ont perdu la vie dans des pandémies, explique-t-il. C'est aussi un moyen de faire de la pédagogie auprès des jeunes Maoris, pas toujours très enclins à se faire piquer par manque de confiance. Alors pour les inciter, ainsi que tous les autres récalcitrants, la Nouvelle-Zélande a récemment mis en place une politique du « no jab, no job », pas de vaccin, pas de travail. Un pass vaccinal qui ne dit pas son nom selon ses détracteurs, qui utilise donc le haka aux grandes dames des Maoris. Cette tribu Maori demande aux antivax de ne plus utiliser le haka. C'est à lire sur le site du Huffington Post.
Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à Josephine Baker.
J'ai deux amours.
Je n'ai que deux amours, chantait Josephine Baker. Mon pays est Paris et son pays, ce n'était pas les États-Unis où elle est pourtant née en 1906. Non, son pays de cœur, c'était la France que la meneuse de revue a toujours défendue avec passion jusqu'à s'engager dans la résistance. Voilà pourquoi l'artiste franco-américaine entrera au Panthéon dans deux semaines, le 30 novembre. Mais avant cet hommage, il convient, c'est l'usage, d'expliquer, de mettre en lumière le rôle qu'a eu Josephine Baker pendant la guerre. Eh bien, c'est ce à quoi s'est attelé le ministère de la Défense hier en dévoilant les documents retraçant les missions de renseignement de l'illustre résistante. Il y a déjà cette photo datée de 1943 où l'on voit Josephine Baker rayonnante et souriante en uniforme militaire en train de poser avec deux de ses collègues devant un portrait du général de Gaulle. Il existe aussi une courte vidéo prise juste avant le cliché, vidéo diffusée à l'époque par les actualités comme on disait. La voix qui commente les images dit ceci, voici le lieutenant Baker de retour d'une tournée en Égypte avec un chèque de 4,5 millions de francs pour aider la résistance. L'histoire militaire de la chanteuse débute en réalité 4 ans plus tôt. Nous sommes en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale vient tout juste de débuter. Les soldats allemands envahissent la Pologne et feront de même en France 8 mois plus tard. Mais Josephine Baker n'attend pas pour réagir, elle sent que les choses vont mal tourner pour sa patrie d'adoption. Alors elle entre en contact avec le commandant Jacques Aptay, chef du service de contre-espionnage du 2e bureau de l'état-major. C'est à ce moment-là que l'artiste entame sa double vie. Vedette le jour, espionne la nuit, ou inversement, la célébrité de Josephine Baker est à la fois un handicap et un atout. Impossible d'entrer en clandestinité, elle est reconnue partout, c'est une star mondiale. Mais c'est aussi un avantage car elle peut se déplacer partout, voyager à travers le monde et ça intéresse les forces françaises libres. C'est ainsi qu'à travers ses tournées à l'étranger, la chanteuse emmène dans ses bagages notamment l'homme qui l'a recruté, le commandant Aptay, qui se fait passer pour son impresario. En clair, Josephine Baker devient un écran de fumée pour permettre à des agents de renseignement de mener à bien leur mission. Mais Baker, la résistante, ne se contente pas de jouer son spectacle pour détourner le regard de l'ennemi. Elle a une jolie voix, certes, on l'a entendu, mais elle a aussi des oreilles qui fonctionnent très bien. Les mondanités auxquelles elle participe lui donnent accès à des conversations qui auraient dû rester secrètes, des confidences que l'on imagine alcoolisées, que le lieutenant sous couverture s'empresse de rapporter à ses supérieurs, autant d'informations qui ont aidé le général de Gaulle à asseoir sa position, notamment auprès des alliés. C'est ce que montrent les documents révélés hier. Josephine Baker, la résistante, la combattante qui chante. C'est un joli article à lire ce matin dans le Figaro.
Et on espère en savoir encore plus d'ici le 30 novembre, s'il commence à sortir de plus en plus d'informations concernant la vie et les combats de Josephine Baker.
Passionnant.
Merci beaucoup Julien, le pressing c'est fini aujourd'hui. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, le journal permanent avec Alban Leprince.
Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se mettent d'accord sur une désescalade de la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Dans le même temps, Angela Merkel s'est, elle, entretenue hier avec Alexandre Loukachenko. La situation épidémique liée au Covid s'aggrave en Europe et notamment en France où pour la première fois depuis la mi-septembre, le taux d'incidence repasse au-dessus du seuil de 100 cas pour 100 000 habitants. Les maires de France se retrouvent aujourd'hui pour leur 103e congrès Porte de Versailles à Paris. Ils devront élire leur nouveau président. Deux candidats sont en lice pour succéder à François Baroin, David Lisnard, considéré comme son héritier, et Philippe Laurent, décrit comme Macron compatible. La proposition de loi contre la maltraitance animale à l'Assemblée aujourd'hui avant une adoption définitive après-demain au Sénat. Elle prévoit notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques, mais aussi la prohibition de la vente de chiots et chatons en animalerie.
Europe 1. C'est le rendez-vous qui donne le sourire, les initiatives en France. Vous vous engagez, vous faites bouger les lignes, et bien vous avez la parole. Et ce matin, Julien, nous sommes dans le Finistère.
Bonjour Yann Santerre.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur de Guylaine, une jeune société basée à Brest. Et vous avez, ni plus ni moins, inventé un nouveau matériau composé principalement de vases, celles qu'on trouve dans les ports. Alors avant que vous nous expliquiez tout ça, commençons par le commencement. D'où vient cette idée de transformer la vase ?
Eh bien, cette idée, elle vient de Bretagne. Moi, je suis originaire du sud-Bretagne, du Morbihan plus exactement, des rives de l'estuaire de la Vilaine. Et en fait, le projet s'appelle Guylaine, c'est le nom en breton de la Vilaine. Et suite à ça, en fait, j'ai étudié l'architecture et le génie civil. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin de nouveaux matériaux pour nos constructions, des matériaux plus vertueux et plus respectueux de l'environnement, ce qui a fait que je me suis lancé dans ce projet.
Alors, on ne se rend pas compte si on ne vit pas au bord de la mer, mais de la vase, il s'en accumule beaucoup dans les ports ?
Oui, les quantités sont considérables. En France, c'est 40 à 50 millions de mètres cubes chaque année qui sont évacués. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près l'équivalent du volume d'une tour Montparnasse tous les 3 ans. Et donc cette matière est essentiellement aujourd'hui rejetée au large. Et donc de plus en plus, les ports sont contraints de les ramener à terre parce qu'on se rend compte que c'est perturbant pour les écosystèmes marins qui sont des écosystèmes fragiles. Et donc on vient proposer une nouvelle piste de valorisation qui permet de valoriser toutes ces matières disponibles.
Alors voilà pour le contexte. Et donc vous, vous vous êtes dit, cette vase, je vais en faire un matériau. Expliquez-nous.
Oui, en fait... J'ai vu ces matériaux qui s'accumulaient de manière dans tous les ports, en fait, parce que c'est un phénomène de physique qui fait que les particules qui sont en suspension viennent se déposer dans le fond. Un port cherche à diminuer les courants et diminuer la houle. Quand on fait ça, en fait, on envase le port.
C'est quoi la vase, en fait ?
Alors, en fait, c'est essentiellement de l'argile. Donc, c'est de l'argile, il peut y avoir plus ou moins de sable. On a du sel, évidemment, puisque ça provient de la mer, des résidus d'algues, et puis il peut y avoir des déchets coquillés. Donc c'est un mélange assez variable et nous on valorise la partie argileuse de ces sédiments via un procédé sans cuisson de température qui du coup permet d'économiser beaucoup d'énergie par rapport à des procédés plus traditionnels comme le béton ou la terre cuite par exemple.
Ça veut dire que vous ne les cuisez pas du tout ? Comment ça se passe concrètement ? Expliquez-nous.
Alors on a un procédé druidique, disons, ce sont des mystères bretons, mais on a un procédé qui est inspiré de la diagenèse, qui est en fait le procédé naturel de formation des roches sédimentaires. Et on s'est inspiré de ce procédé pour mettre au point ce procédé qui, justement, ne nécessite pas de cuisson de température, qui permet de modifier la structure des argiles et donc leur donner une solidité et aussi une résistance à l'eau, qui est un point important pour nous.
Il a un nom, ce matériau que vous avez créé ?
Il n'a pas de nom spécifique. Le matériau, on l'appelle matériau sédimentaire pour l'instant. En revanche, on a un matériau qu'on vient de lancer qui s'appelle le Merazzo en partenariat avec une autre entreprise bretonne qui nous fournit des déchets coquillés qui nous permettent de faire un terrazzo 100% marin et 100% breton. Et on lance ça sur Ulule en ce moment même. Donc celui-là a un nom, mais le matériau générique, disons, on n'en a pas encore.
Alors effectivement, il y a ce Merazzo, hein, ce qui ressemble à ces carrelages italiens que l'on voit beaucoup dans les salles de bain. Et vous l'appliquez à plein de types de produits, c'est-à-dire des plateaux, des lampes et des dessous de verre qui sont effectivement précommandables en ce moment sur ce site qui s'appelle Ulule.
Oui, tout à fait. Oui. Les premières applications, c'est vraiment le lancement de notre atelier qu'on vient d'installer à Brest. Et on propose effectivement des dessous de verre peuvent agrémenter les tables de fête de fin d'année. Et puis oui, des plateaux, on a différents formats, et aussi de lampes qu'on a dessinées qui permettent de faire une lumière indirecte et qui sont en exclusivité effectivement sur Ulule en ce moment.
Et la suite, vous nous l'avez esquissé, c'est d'arriver à faire des matériaux de construction à même de remplacer peut-être un jour les briques et les parpaings.
Oui, tout à fait. On a tout un programme de R&D qui va démarrer en début d'année prochaine. Et on va recruter pour ça un docteur en chimie qui va nous aider dans les formulations et l'amélioration de notre procédé. Je dis « on » parce qu'on est deux associés. Mon associé, c'est Mathieu. On est tous les deux architectes ingénieurs et on a fondé le projet en 2020. Et donc notre objectif, c'est vraiment de trouver de nouvelles alternatives aux matériaux de construction pour réduire l'impact environnemental considérable qu'a ce secteur aujourd'hui, notamment du fait de ces matériaux qui sont consommateurs de ressources et aussi très polluants de par leur procédé de production.
Merci beaucoup Yann Santerre de nous avoir présenté votre innovation, ce matériau 100% marin et bien plus écologique que le béton et la brique. Je redonne le nom de votre entreprise, Guilaine. C'est à Brest. Bonne continuation et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h28. Quel est le programme de la prochaine demi-heure, Omblin ?
La prescription culture de Nicolas Caro, son choix lecture du mardi, le quatrième roman de Florent Oiseau. Les fruits tombent des arbres quand la vie normale, le banal, devient extraordinaire.
Mais juste avant, Omblin, vous allez nous parler de la flèche de la basilique de Saint-Denis.
Alors on connaît bien celle de Notre-Dame, hein, l'œuvre de Viollet-le-Duc, détruite par l'incendie en avril 2019, qui va être construite. Si elle a pu susciter le débat, celle de Saint-Denis, surplombant la basilique royale, nécropole des rois roi de France suscite, elle, la controverse. Menacée de s'écrouler, elle a été démontée il y a 175 ans après d'importantes intempéries et elle devrait être reconstruite avec son clocher. Un certain nombre d'historiens et de scientifiques s'y opposent. Pour quelles raisons ? Eh bien, on posera la question à l'un d'entre eux dans 10 minutes, Mathieu Lejeune, qui est historien de l'art médiéval.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
C'est encore une journée bien grise qui débute, Anissa Haddadi.
Oui, nous avons un temps typique d'une mi-novembre avec quelques brouillards ce matin. Soyez prudents dans le centre Val-de-Loire ou encore dans le Jura. Des brouillards qui vont avoir vraiment du mal à se dissiper cet après-midi. On a de la bruine ce matin. L'ambiance est donc très humide sur toute la moitié nord du pays. Et puis toute la journée, bien, on a un ciel qui reste très gris. On a vraiment un plafond encore plus gris qu'hier aujourd'hui avec de toutes petites éclaircies pour le Cotentin et la Vendée. Voilà où seront les plus chanceux. Ah non, alors les vraiment plus chanceux de la journée. Ils sont au bord de la Méditerranée, là où on a un temps bien plus calme et plus sec qu'hier, avec des petites averses ce matin sur le Roussillon. En Corse, ça se calme sur la façade ouest où on a du soleil, puis sur la façade est, on a encore quelques petites averses. Mistral et Tramontane dans le sud qui chassent les nuages, 3 degrés à Brive-la-Gaillarde, 4 à Chambéry, 6 à Lyon et Paris. Sophie nous signale 7 degrés à Reuilly dans l'Indre, 10 à Perpignan et 11 à Marseille ce matin.
On embrasse Sophie, mais vous embrasse aussi Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
L'effet négatif du confinement a été effacé dans les écoles primaires. C'est le principal bilan de la campagne d'évaluation en français et en mathématiques menée auprès des écoliers. Une inquiétude en revanche, un tiers des élèves de 6e a le niveau de lecture d'un CE2. L'Union européenne et les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions à venir contre la Biélorussie. Plus de 2000 migrants sont toujours massés à la frontière polonaise. À Varsovie, les habitants semblent totalement indifférents au sort de ces demandeurs d'asile. Dans ce journal, la première journée du procès en appel de François Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs et puis transmettre le goût de la musique aux tout petits. À Paris, un orchestre propose des concerts acoustiques pour les bébés de 3 mois à 5 ans.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'était l'une des grandes inquiétudes liées aux conséquences des confinements successifs. Le niveau scolaire des élèves allait-il en pâtir sur le long terme? De ce point de vue, les choses sont plutôt rassurantes et cela va même un peu mieux. C'est la principale conclusion de la grande enquête de niveau menée par l'Éducation nationale. Les écoliers de CP, CE1 et de 6e ont passé une batterie de tests en français et en mathématiques notamment. Les résultats sont encourageants. En revanche, pour la lecture, c'est tout à fait autre chose. Virginie Riva.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que la baisse de niveau observée en CP et CE1 l'an dernier à cause de la crise sanitaire a été complètement rattrapée. Tous les élèves reviennent à leur performance de 2019 avec même certaines petites améliorations pour la comparaison de nombres ou la reconnaissance de lettres en CP, par exemple. Mais le gros point noir reste la maîtrise de la lecture à l'oral en 6e, ce qu'on appelle le test de fluence. Un tiers des élèves à l'entrée en 6e n'ont qu'un niveau CE2 et c'est notamment vrai en éducation prioritaire. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale.
On a encore un niveau de ce qu'on appelle de fluence, c'est-à-dire capacité à lire avec aisance à l'oral à voix haute en 6e, qui est aujourd'hui insuffisant. C'est quelque chose qu'on savait déjà l'année dernière. Je rappelle d'ailleurs que la lecture est grande cause nationale. C'est parce qu'on a tous conscience qu'il y a une urgence collective à la lecture, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans les bibliothèques municipales, partout. Il faut faire lire, faire lire, faire lire.
Les écarts entre élèves défavorisés et les autres diminuent en revanche au primaire, sauf entre le milieu du CP et le début du CE1. Une seule hypothèse pour le ministère, c'est l'effet vacances scolaires. En clair, les enfants qui ne lisent pas ou n'ont pas de cahier de vacances régressent plus que les autres. Une étude va être lancée rue de Grenelle.
Virginie Riva.
La crise migratoire entre l'Europe et la Biélorussie. Bruxelles annonce de nouvelles représailles à venir.
Les ministres européens des Affaires étrangères ont adopté le principe hier. Reste à définir les cibles précises. Personnes physiques, entreprises, les compagnies aériennes et les agences de voyage sont dans le collimateur. Les coups de fil entre dirigeants se multiplient. La chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue avec le président belarusse Loukachenko. Emmanuel Macron, de son côté, a appelé le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes plaident pour la désescalade.
En attendant, à la frontière, la situation reste confuse.
La Biélorussie souffle le chaud et le froid. Le régime de Loukachenko invite certains migrants à faire demi-tour, tout en continuant d'en acheminer d'autres sur la zone. Hier, le gouvernement polonais a annoncé la construction d'un mur de 180 km le long de la frontière avec le Bélarus. Les travaux pourraient débuter dans moins d'un mois. Des grandes manœuvres qui laissent de marbre les habitants de Varsovie, la capitale. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Marion Gauthier.
Quelles frontières, demande l'étudiante emmitouflée, avant que la mémoire ne lui revienne.
J'ai parlé de ça une fois avec ma mère, mais elle n'avait rien à dire de particulier. Ce sont des affaires politiques.
Leurs yeux se sont déjà arrêtés sur les titres de presse, les photos des camps de migrants, celles des militaires derrière les barbelés. Mais la frontière avec la Biélorussie reste lointaine pour les habitants de ce quartier populaire.
J'en ai entendu parler, bien sûr. Mais c'est compliqué parce que je n'ai jamais vu une situation comme ça. On a passé trop de temps en paix. On attend de voir ce qui va se passer. On ne peut pas faire grand-chose pour l'instant.
C'est difficile d'imaginer ce qu'il se passe vraiment là-bas.
Difficile pour ce restaurateur de prendre la mesure de la situation.
Le commerce ne va pas très bien en ce moment, donc j'y pense. Mais ce n'est clairement pas en haut de la liste de mes problèmes.
Et s'il se dit inquiet pour le sort des familles piégées dans le froid et la forêt polonaise, il compte sur les politiques et la diplomatie européenne pour apaiser les tensions. Varsovie, Marion Gauthier, Europe 1.
On revient en France avec la crise sanitaire et c'est une certitude, le virus circule de plus en plus.
On vient d'atteindre un palier, celui des 100 cas pour 100 000 habitants, le fameux taux d'incidence. Pour l'instant, cela ne se traduit pas par un afflux de malades dans les hôpitaux. Le nombre moyen de décès quotidiens y est même moins élevé d'une semaine sur l'autre.
Le procès en appel de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs. On guettait l'apparition de l'ancien Premier ministre hier, mais c'est son épouse qui a mobilisé l'attention.
L'ancien Premier ministre n'a prononcé que quelques mots pour contester la procédure. Son épouse s'est montrée beaucoup plus bavarde. On était même très loin de la Pénélope Fillon du procès en première instance, timide et effacée. Cette fois, elle est apparue nettement plus offensive que Gladys Laffitte.
Aujourd'hui, je n'ai pas d'activité professionnelle, a sobrement indiqué à la cour Pénélope Fillon, les mains jointes devant elle. Invitée par la cour à s'expliquer sur les raisons de son appel du premier jugement, d'une voix faible, elle a décrit s'être sentie ridiculisée, humiliée lors du premier procès. J'étais tétanisée, au point de ne pas pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu. J'avais l'impression qu'il y avait un préjugé sur moi dès le début. Et cette fois-ci, j'aimerais vous convaincre de tout ce que j'ai fait durant ces années de travail. François Fillon a lui promis une déclaration liminaire plus tard. Mais il a d'ores et déjà dit contester ce jugement, toujours bien droit face à la cour. Mais avant d'entrer dans le fond du dossier, l'avocat de l'ex-premier ministre a tenté de faire tomber l'enquête, dénonçant une inégalité devant la loi. François Fillon n'a pas reçu le même traitement judiciaire que tout autre justiciable, selon lui.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, le procès qui doit se tenir jusqu'au 30 novembre.
La musique adoucit les mœurs, elle peut aussi apaiser les bébés.
On ne parle pas d'expérience, mais l'initiative s'intéresse uniquement aux tout-petits de 3 mois à 5 ans. L'Orchestre Lamoureux à Paris propose de leur faire découvrir la musique acoustique. Marie Jiquel a assisté à ce bébé concert.
Bien sûr, le spectacle se déroule sur la scène, mais il se joue aussi dans la salle avec ces bébés très réactifs, comme le confie le violoniste Hugues Borsarello.
On entend des gazouillis, on entend taper dans les mains, on entend, il y en a un qui dit bravo à la fin, il y en a un qui va se mettre à chanter, il y a vraiment de tout, il y a aussi des cris, des pleurs.
Ces jeunes spectateurs sont accueillis dès leur naissance dans les meilleures conditions. Anne-Sophie Libra de l'Orchestre Lamoureux.
On a mis tout un dispositif pour les bébés, donc avec ce fameux parking à poussettes, et puis le format qui est un petit peu court pour qu'on ne perde pas la concentration des enfants.
Au programme ce matin, de la musique latine qui a plu à Abel, 2 ans. Alors, c'était comment, Abel ?
Très bien.
Des bébés libres de déranger et des parents détendus et ravis comme Benjamin et Juliette.
C'est assez sympa pour les parents de pouvoir sortir sans du tout culpabiliser, la musique est plus forte, donc c'est bien.
Voilà, des enfants, donc un peu de temps en temps bruyants, mais ça pose aucun problème. Comme les musiciens sont très ouverts et généreux, il n'y a pas de souci.
Une représentation qui fera peut-être naître des vocations chez ces tout-petits.
Reportage Marie Jiquel et les bébés concerts se déroulent tous les week-ends à Paris.
C'est noté. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que va se courir ce quintet à handicap sur la distance de 2000 mètres. Et parmi les 16 partants, je vous recommande les numéros 1 Villaro et 10 Astrologia, respectivement 2e et 4e de cette même épreuve l'an dernier et qui trouvent cette année des conditions similaires, notamment un terrain lourd sur lequel ils valent tous les deux quelques longueurs de mieux. On leur opposera au 1000 le numéro 4, peu expérimenté, mais visiblement doué, comme le prouve sa victoire obtenue avec la manière, le 1er octobre sur l'hippodrome du Mans, avec African Grey, le numéro 7, associé à Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, et qui partira avec la confiance de son entourage. Enfin, les numéros 13, Ava Dancer, 5, Jackson, 8, Inaugural et 14, Courcard, ont eux aussi des arguments à faire valoir pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet. Mon pronostic, As, 10, 4, 7, 13, 5, 8 et 14.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h38 dans un instant sur Europe 1, la flèche de la basilique Saint-Denis au centre d'une controverse.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40, bon réveil sur Europe 1. C'est un projet en discussion depuis de nombreuses années, la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, tombeau des rois de France. Avec son clocher, cette flèche qui a été bâtie en partie au XIIIe siècle a été démontée en 1846 après avoir été fragilisée par de grosses intempéries. Et bien 175 ans plus tard, le projet de sa reconstruction suscite une profonde polémique. On en parle, Omblin, avec Mathieu Lejeune, historien de l'art médiéval.
Bonjour Mathieu Lejeune.
Bonjour.
Votre thèse avait pour objet les flèches monumentales du XIIIe siècle dans le nord de la France, avec comme cas d'étude la tour sud de la cathédrale de Senlis. Vous savez donc parfaitement de quoi on parle ce matin. Mathieu Lejeune, vous faites partie des historiens qui s'opposent à ce projet de remontage de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Vous parlez même de, et je vous cite, vandalisme patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
En fait, je pars du principe que lorsque l'on injecte du béton dans une façade qui a tenu 877 ans, qu'on va mettre des tirants en acier, c'est du vandalisme patrimonial, ni plus ni moins. Si on faisait la même chose, je sais pas moi, à la cathédrale de Reims ou la cathédrale de Chartres, je pense qu'on crierait au scandale. Donc je ne comprends pas pourquoi l'État laisse donc faire ça à la basilique Saint-Denis.
Injecter du béton, c'est pour renforcer les fondations afin de pouvoir ériger cette nouvelle flèche, c'est ça ?
Exactement. Donc c'est une façade qui n'en a pas besoin et c'est simplement pour construire une flèche. Donc en fait, c'est lié à un caprice politique. On va donc dénaturer une façade du XIIe siècle parfaitement conservée et en plus qui vient d'être restaurée. Elle a été restaurée en 2015, cette façade.
Rappelons que la basilique abrite la nécropole des rois de France. Une tribune signée par 128 chercheurs et universitaires a été publiée par le magazine Le Point fin septembre. Ils évoquent une détérioration, en plus de ce que vous dites, pour les fondations, une détérioration du tombeau de Pépin le Bref. Faux, disent les partisans de la reconstruction de la flèche de Saint-Denis. Alors qui a raison ?
Alors effectivement, en fait, c'est une erreur de lecture, si vous voulez, parce que quand on regarde la tribune, nous disons bien dans la tribune qu'on va toucher forcément au cimetière mérovingien et carolingien qui se situe devant le massif de façade. Donc effectivement, on dit dans la tribune que, entre autres, il y a la sépulture de Pépin le Bref, puisque les grands dignitaires francs étaient inhumés dans ce cimetière du Haut Moyen-Âge. Donc nous, effectivement, on ne peut pas dire noir sur blanc qu'on va détruire le tombeau de Pépin, mais on dit qu'effectivement, on va toucher un cimetière, puisqu'on va quand même injecter des fondations par micropieux. Donc ça veut bien dire qu'on va dénaturer un cimetière du Haut Moyen-Âge.
C'est un risque que vous pointez du doigt, en fait, plus que d'une affirmation. C'est un risque, c'est ce que vous craignez.
Exactement, voilà.
Vous vous opposez aussi sur le stock de 300 pierres présentées comme vestiges médiévaux, ce qui n'est pas le cas, ça c'est assez clair.
Bien sûr, en fait, c'est la pure falsification scientifique. Et c'est ça que je trouve très grave, c'est que dans ce projet, il y a quand même des universitaires qui sont parfaitement au courant de ce qui s'est passé. Et donc, on a soutenu que ces pierres appartenaient au Moyen-Âge, que c'était les pierres de la flèche médiévale. Vous avez un architecte en chef des monuments historiques qui l'a soutenu devant les médias. On peut retrouver toutes les interviews, même les gens qui étaient dans l'État. Il y en a forcément qui étaient au courant. Et je ne comprends pas pourquoi on a laissé dire des mensonges pareils, parce que c'est ça qui a permis de justifier aux yeux de l'opinion ce projet. Alors que si on savait dès le départ que c'était des pierres du XIXe siècle, forcément ça tombait à l'eau, cette histoire de village médiéval au pied de la basilique. Parce que c'est ça aussi le prétexte. On a un vernis social autour de dire, vous comprenez, c'est pour les habitants de Saint-Denis, alors que bon, je pense que les habitants de Saint-Denis, ces 22 millions d'euros, ils seraient plutôt contents que cet argent public, ils aillent pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne, plutôt que de ce projet purement politique.
Vous l'avez évoqué, la cathédrale de Chartres, on le sait, cette cathédrale de Chartres attire 1 million de visiteurs par an, je ne parle pas de Notre-Dame, contre 140 000 en tout à Saint-Denis, vous comprenez donc sans doute ceux qui pensent qu'il est nécessaire de faire revenir les touristes, et pourquoi pas par le biais d'ailleurs d'un chantier pédagogique comme le souhaite, vous l'avez évoqué aussi, l'architecte des monuments historiques Jacques Moulin qui dirige le chantier. La volonté à l'origine, elle est louable.
Alors, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on va restaurer notre patrimoine en fonction des retombées touristiques ? On va restaurer notre patrimoine pour le conserver et pour le préserver pour les générations futures, en sachant que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que quand on restaure un monument en le conservant, en conservant son authenticité, en ne l'abîmant pas, on préserve aussi le retombé touristique. Ce chantier pseudo-pédagogique, en fait, il s'est un petit peu modifié au cours du temps. Effectivement, au début, ça devait être un chantier qu'on devait visiter sur l'échafaudage, mais rapidement, on a vite compris que ça va être une grande entreprise du BTP qui va construire la flèche, donc ça ne va même pas être des techniques anciennes. En fait, le petit chantier que vous avez en bas de la basilique, c'est simplement une sorte de simulacre pour faire oublier que quelques mois plus tard, alors moi, je ne sais pas quelle entreprise va faire ça, Vinci, Bouygues, donc ils vont construire la flèche. Et d'ailleurs, moi, je serais intéressé de savoir les techniques de construction qu'ils vont faire, parce que moi, en tant que spécialiste des flèches médiévales, j'ai étudié les techniques de construction des flèches aussi bien du Moyen-Âge que du 19e. Et à Saint-Denis, j'ai regardé toute la documentation, documentation qui a été en partie en plus évacuée par Viollet-le-Duc à l'époque. Elle a beau être riche, moi, j'ai encore beaucoup de zones d'incertitude qui ne permettent pas de savoir comment techniquement on a pu construire la flèche au Moyen-Âge. On n'a pas les techniques précises de mise en œuvre de cette flèche médiévale. Donc, beaucoup de zones d'ombre et à mon avis, c'est plus de la communication que de la véracité.
Merci beaucoup, Mathieu Lejeune, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de cette flèche de la discorde. J'ai envie de dire, je rappelle que vous êtes historien de l'art médiéval. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
On passe de la pierre au papier à 6h moins le quart sur Europe 1. C'est la prescription culture avec Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Nicolas, ce matin, vous nous parlez du quatrième roman d'un auteur que vous aimez bien, Florent Oiseau.
Oui, Florent Oiseau qui avait eu l'année dernière un joli succès avec les Magnolia et qui revient pour cette rentrée littéraire avec Les fruits tombent des arbres chez Alary Éditions. Si vous ne le connaissez pas, Florent Oiseau est un jeune écrivain d'une trentaine d'années, très inspiré par Bukowski ou Fante, les écrivains de l'errance, du banal.
Et que raconte ce nouveau roman ?
C'est l'histoire de Pierre, la petite cinquantaine, célibataire, qui vit à Paris à côté de l'arrêt du bus Popincourt. Et justement, un jour à cet arrêt, un de ses voisins meurt, victime d'une crise cardiaque. Bon, il ne le connaissait pas du tout, donc on ne peut pas dire que Pierre soit dévasté, mais il est en tout cas sidéré de constater que malgré la mort de cet homme, le monde continue de tourner et le bus continue son itinéraire quotidien. Alors, il erre sur le chemin de la ligne 69 et il regarde ce monde tourner. Il fait des rencontres, mais je ne peux pas vous raconter des aventures incroyables ou un polar machiavélique. Florent Oiseau, c'est l'écrivain du banal, du moyen, mais qui dans ses yeux devient extraordinaire. Florent Oiseau.
Moi, je sais que je m'intéresse à tout ce qui n'intéresse pas les autres en règle générale et je vois des éventuels personnages et de la poésie et des scènes et du romanesque dans le pas grand-chose. Et ça va peut-être paraître un peu pompeux, mais je crois que je m'intéresse à tout, sauf au monde dans son entièreté. Je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans un périmètre de 5-10 km², à ce que j'ai en bas de chez moi, à ce qui se passe dans le bistrot au coin de la rue. Et à tous ces destins que je ne rencontre pas tellement en littérature ou dans le cinéma.
Alors j'imagine qu'il lui arrive quand même des choses à ce personnage, à ce héros quand même.
Tout le temps, mais ce sont des dizaines de micro-aventures, comme quand il est dans une laverie automatique et qu'une actrice célèbre débarque à la recherche de quelqu'un qui saurait monter une mayonnaise. Il se trouve que Pierre est un pro de la mayonnaise. Et puis, il y a une histoire d'amour aussi qui court le long du roman, mais avec un langage bien à Florent Oiseau. Pierre, le héros, quand il regarde la jeune femme avec qui une histoire est peut-être en train de naître, il la trouve très jolie et se dit, je cite, que sa bouche ressemblait à un très beau pneu.
C'est un peu étrange, ça, Nicolas, un pneu ?
Eh bien oui, je vous confirme que l'on n'a jamais comparé une bouche à un pneu. Et tant mieux, Florent Oiseau.
Je suis très content que vous citiez cette phrase, parce que je ne suis pas content de toutes celles qui composent mon livre, mais en fait, je trouve ça très important quand on décrit quelqu'un et physiquement, quand on décrit un regard. Moi, par exemple, si dans un livre, je lis « Elle avait le regard bleu azur », le livre tombe systématiquement. Si jamais un regard nous plaît et qu'il a le loisir d'être bleu, il faut le comparer à une Fiat Punto bleue. Enfin, il faut qu'il ait un bleu, le bleu du micro d'Europe 1. Il faut qu'il ait un bleu inédit, en fait. On peut tout dire sur une bouche, qu'elle est pulpeuse, qu'elle est dessinée par Michel-Ange. Bon, ça m'intéresse pas tellement. Charnue, bon, moi ça m'intéresse pas. Si mon personnage est touché par la bouche de cette jeune femme, faut qu'il la décrive avec des mots qui n'ont jamais été utilisés pour la décrire.
Ah voilà, vous avez des yeux aussi bleus que le micro d'Europe 1. Ça peut-être marcher, hein, on va essayer, on sait pas.
Il faut tenter, voilà. Mais ce qui marche, c'est l'écriture de Florent Oiseau dans cette odyssée du normal, du banal, du moyen, qui devient donc extraordinaire.
Les fruits tombent de l'arbre, donc, c'est chez Alary. Merci Nicolas Caro.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Leprince.
Un fléau qui touche jusqu'à 10 000 enfants en France, la prostitution de mineurs. Le gouvernement a annoncé hier un plan de 14 millions d'euros. Il prévoit notamment de mettre en place une plateforme d'écoute pour les familles et l'organisation de maraudes numériques. Alors que de nombreux pays européens optent pour un tour de vis supplémentaire pour contrer la flambée de l'épidémie de Covid, le taux d'incidence en France vient de repasser au-dessus du seuil de 100 cas pour 100 000 habitants, une première depuis la mi-septembre. La Pologne construit un mur à sa frontière avec la Biélorussie alors que des milliers de migrants sont toujours bloqués à la frontière. Les travaux débuteront le mois prochain. Ce mur devrait s'étendre sur 180 km pour un budget de 353 millions d'euros.
Europe Matin.
On ouvre à présent vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celui ou celle qui l'a écrit.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour Julien Pierce.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan et vous nous parlez ce matin des résultats du baromètre des territoires. C'est une grande enquête menée chaque année. Et quel en est le premier enseignement que vous en tirez ?
Eh bien, le premier enseignement, ce n'est pas moi qui le tire, mais c'est l'Institut qui a fait cette enquête, le cabinet Elab et l'Institut Montaigne. Donc, c'est qu'il fait vraiment bon vivre en Pays de la Loire et que les gens sont heureux d'y vivre. Et le plus important, ce n'est pas tellement qu'ils sont heureux d'y vivre, c'est qu'ils ont en plus un excellent moral, ils sont optimistes pour les années à venir.
Comment cela s'explique ? Est-ce que c'est l'air de l'Atlantique qui joue là-dedans ?
Je pense que ça joue. Vous savez, alors, lorsque vous avez un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit moral en berne, eh bien, vous prenez la direction de la côte, c'est toujours un grand moment vivifiant. Alors je pense en effet que ça joue. Ce sont les régions aussi qui sont aujourd'hui moins touchées peut-être que d'autres par les difficultés de trouver un emploi. On est quasiment à un seuil historiquement bas. Et puis, on n'a pas les difficultés peut-être qu'on peut rencontrer dans certaines zones de la région parisienne, par exemple.
Oui, la crise sanitaire a remis en lumière, on va dire, les villes moyennes, bien plus désirables désormais pour nombre de Français que les grandes métropoles. Et des villes moyennes, il y en a plein chez vous ?
Oui, des villes moyennes, il y en a pas mal. Alors évidemment, il y a la grande ville Nantes, mais il y a beaucoup de belles villes moyennes comme Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Saumur, enfin voilà, il y a plein d'endroits magnifiques, parce qu'on cite les villes, mais il y a aussi des territoires en milieu rural absolument fantastiques, avec une qualité de vie qu'on n'imagine peut-être même pas dans les grandes villes. Alors il y a cette qualité de vie, et puis il y a aussi les habitants, les Ligériens, comme on les appelle, eh bien sont les vraiment optimistes pour leur avenir personnel.
Oui, au final, plus de 8 Français sur 10 se disent heureux. Ça, c'est à l'échelon national, c'est encore mieux en ce qui concerne les Ligériens. Mais c'est plutôt positif, finalement, parce qu'on dépend souvent les Français comme étant des grincheux de première. Et au final, plus de 80% se disent heureux de leur vie.
Eh bien oui, c'est ce qui m'a, moi, le plus surpris, et je pense que c'est ce qui surprendra tous les lecteurs de ce baromètre, c'est que les Français, c'est toujours le tempérament gaulois, on est toujours à se plaindre, mais finalement, quand on va chercher un petit peu, qu'on gratte le vernis, et on se rend compte que les Français, ils ne sont pas si malheureux que ça. Et ils le reconnaissent.
Merci beaucoup Pierre-Marie Herriot, on va terminer sur cette note positive.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans Presse Océan. Très bonne journée et à très bientôt.
Merci Julien Pierce, bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellent mardi à tous sur Europe 1, il est 5h56. Dans un instant, la météo, le journal et un redécollage.
Celui d'Airbus qui, depuis dimanche, signe contrat sur contrat, 366 avions commandés, soit 34 milliards d'euros. Prix catalogue, voilà qui lance parfaitement le salon aéronautique de Dubaï, le premier en présentiel depuis le début de la pandémie. On se croirait presque dans le monde d'avant et pourtant, on est bien dans celui d'après. Fini la folie des grandeurs, le toujours plus désormais. Tout le secteur n'a plus qu'un objectif, la neutralité carbone. Objectif 2050. Alors comment y arriver ? Quelles sont les technologies les plus prometteuses ? On en parle dans une dizaine de minutes maintenant avec Jean Serra, consultant en aéronautique. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Il est le point commun entre Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Tupac et 50 Cent. Le producteur Dr. Dre est ici avec les Cadillacs qui rebondissent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce
clip.
Oui,
je me souviens très bien de ce clip.
Dre. Dr. Dre à l'aube de l'an 2000.
Il essaie de faire la même chose avec ma Toyota, mais
ça marche pas.
Non.
Bon, on restera plus tard. Rendez-vous dans 20 minutes avec Dr. Dre. Et à tout de suite.
Très bon réveil à tous, il est 6h. La maltraitance des personnes âgées en hausse, plus 22% en un an selon les autorités, des violences surtout psychologiques, un quart des alertes concernent les EHPAD. C'est une première depuis le début de la crise sanitaire, la mortalité sur les routes en hausse, plus 14% en octobre, les associations déplorent des messages de prévention inaudibles face à l'épidémie. Et puis plus de peur que de mal pour les astronautes américains, la Russie a tiré un missile anti-satellite, des milliers de débris et la panique dans la station spatiale internationale.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Les signalements sont en hausse. Les personnes âgées victimes de maltraitance, plus 22% en un an selon le 3977, la ligne téléphonique dédiée à la lutte contre ces violences. Des violences psychologiques liées dans les maisons de retraite à la négligence des soignants épuisés par la crise sanitaire.
Des seniors fragilisés dans les EHPAD, mais un autre danger les guette, la dénutrition. Un tiers des résidents en EHPAD sont concernés par cette perte d'appétit liée à l'âge ou à la maladie.
Un amaigrissement qui a des conséquences sur leur état de santé. Alors pour retrouver le plaisir de manger, la chef étoilée Guylaine Arabian a partagé quelques recettes avec des malades d'Alzheimer et leurs aidants. Afsane Essaboui s'est rendue dans cet atelier culinaire.
Il y a belle lurette que la cuisine et la pâtisserie, ça m'a passé. Maintenant, je la mange.
Danielle a 79 ans. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer et aujourd'hui, elle a enfilé toc et tablier pour participer avec son mari Gérard à un atelier de cuisine. L'objectif de France Alzheimer, sensibiliser les malades et leurs aidants au danger de la dénutrition. Le docteur Éric Fontaine préside le collectif de lutte contre cette maladie.
Quand on perd beaucoup de muscles, on diminue nos défenses immunitaires. Et donc, on fait des infections plus fréquentes et plus graves.
La solution, c'est l'exact inverse d'un régime, se faire plaisir et manger riche. Et ça tombe bien, la chef Guylaine Arabian est en train de partager sa recette d'un plat d'hiver flamand, le stoump.
C'est la cuisson d'une pomme de terre avec un légume, normalement. Et on coupe en petits morceaux, on met de l'eau à fleurs et on met plein de beurre. Et on laisse cuire. C'est super bon.
Pendant que les légumes mijotent, Daniel et Gérard s'attablent devant un velouté de courge butternut, là encore généreusement enrichi de crème. Verdict dès la première cuillère.
Ben c'est bien bon.
C'est vraiment l'enjeu contre la dénutrition, retrouver le plaisir de manger, même en petite quantité.
Un reportage qui donne faim. Afsane Essaboui pour Europe 1.
Ça, en revanche, ça ne donne pas faim. Les antibiotiques, ce n'est plus automatique et le message est passé auprès des Français.
La consommation a diminué de 17% en 2020, selon Santé publique France. Une tendance accentuée par les confinements et la baisse des consultations, c'est son médecin généraliste.
Une vie au ralenti qui avait aussi diminué le nombre d'accidents de la route.
Or, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la mortalité routière augmente en octobre, plus 14%, 37 victimes de plus par rapport à 2019, l'année de référence. Anne Lavaux est la déléguée générale de l'association Prévention Routière.
Il faut remonter à 2012 pour retrouver un nombre de blessés aussi élevé qu'en octobre 2021. Donc il y a un vrai phénomène que notre association explique par un relâchement généralisé qui est dû également à des difficultés que l'on a à passer des messages de prévention sur les sujets de route en raison du fait que le Covid et la prévention santé écrasent un petit peu tout. Eh bien, malheureusement, les chiffres que l'on observe sur ce mois d'octobre vont peut-être nous donner raison.
Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière, jointe par Wilfried Delivers.
6h03 sur Europe 1 et cette question, comment un homme déjà condamné pour viol a-t-il pu récidiver 22 ans plus tard? Question au cœur du procès de David Rameau. L'audience démarre aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai dans le Nord.
En 2018, cet homme a enlevé, violé et tué sa voisine, la petite Angélique, 13 ans. Un père de famille déjà emprisonné puis libéré sans aucune obligation de soins. Le récit de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.
À l'époque de sa première condamnation en 1996 pour le viol sous la menace d'une arme d'une adolescente de 12 ans, la loi sur le suivi socio-judiciaire n'existait pas et à sa libération en 2000, David Rameau n'avait fait l'objet d'aucune obligation de soins. C'était donc une bombe à retardement lâchée dans la nature alors même qu'il présentait des troubles anxieux et sexuels. Pendant 20 ans, ce chauffeur de bus, père de deux enfants, va cacher sa vraie nature à son épouse rencontrée en permission lors de sa détention. Jusqu'en 2018 où, sous l'emprise d'une pulsion, dira-t-il, il enlève, viole et étrangle Angélique, son ancienne petite voisine, avant d'enterrer son corps dans une forêt. Alors aujourd'hui, les parents de la victime et leur avocate Audrey Jankélévitch veulent savoir pourquoi la dangerosité de cet homme n'a pas pu être repérée.
Ça a été en fait une douleur supplémentaire de savoir que c'était quelqu'un qui avait déjà commis des faits de cette nature. Et ce sont des parents et une grande sœur qui se demandent toujours comment on aurait pu éviter la mort d'Angélique, ce qu'on aurait pu mettre en place pour que David Rameau ne puisse pas dissimuler les faits qu'il avait commis, la nature qui était la sienne et qu'il ne commette pas à nouveau défaut des faits si graves.
L'expert psychiatre a décelé chez l'accusé des traits de perversité, de sadisme sexuel et durant l'instruction, Rameau a admis qu'il ne sortirait jamais de prison. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
C'est un nouvel épisode dans la guerre des étoiles. Un missile anti-satellite a été tiré par la Russie, un acte condamné par les États-Unis.
Et c'est pourtant dans la vie réelle un tir jugé dangereux et irresponsable par Washington. Les milliers de débris auraient menacé des astronautes américains en mission dans l'espace. Les explications de Thibaut Hue.
Le satellite russe a explosé en plus de 15 000 morceaux, des débris qui se sont rapprochés dangereusement de la Station spatiale internationale. L'alerte a été donnée et les 7 astronautes à bord ont dû se réfugier dans des vaisseaux prêts à évacuer et à rejoindre la Terre en cas d'urgence. Finalement, les occupants de l'ISS ont pu regagner la station et le danger semble écarté. Anton Shkaplerov, l'un des deux Russes membres de l'équipage, a même tweeté « Les amis, tout va bien chez nous, nous continuons à travailler ». Plus de peur que de mal donc, mais la tension est montée d'un cran entre les États-Unis et la Russie. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, n'a pas voulu se prononcer sur d'éventuelles sanctions, mais il dénonce un comportement dangereux, irresponsable, une démonstration de force de la part de Moscou qui s'était pourtant opposée à la militarisation de l'espace. Hypocrite, juge Ned Price.
Thibaut Hue.
On a gagné l'auto ?
Et non, vous aurez, malheureusement non, vous aurez en tout cas reconnu ce tube de Michael Jackson, en tout cas l'air évidemment, et bien des vestes, des guitares du roi de la pop, mais aussi des Beatles, U2, Elvis Presley, des légendes de la pop et du rock réunies aux enchères. Plus de 1000 objets seront mis en vente le week-end prochain à New York.
Et à mon avis, il faudra bien avoir gagné au loto avant pour pouvoir s'en offrir quelques-uns.
Oui,
c'était
le
journal de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
Il est 6h06.
Toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et c'est le journal des sports de Martin Lange. Du football pour commencer, Martin, avec le dernier match des Bleus cette année.
Oui, un match pour du beurre. Les Bleus sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Mais l'affiche de ce soir contre la Finlande sera l'occasion d'entretenir la dynamique depuis la victoire en Ligue des Nations. Et peut-être aussi de voir de nouvelles têtes. Le capitaine Hugo Lloris s'attend en tout cas à un match sérieux face à des Scandinaves qui, eux, jouent une place en barrage.
On se doit de bien finir l'année civile. Les Finlandais peuvent rentrer dans l'histoire en accrochant ces barrages. Et en tout cas, ils vont tout mettre en œuvre pour le faire. Donc, ça ne sera pas un match simple. Les supporters seront présents. Il va y avoir de l'ambiance. À nous de s'adapter à ces conditions. Il faut être prêt à jouer un match international et à livrer une performance comme il se doit.
Hier, Martin, d'autres sélections ont validé leur billet pour le Qatar.
Oui, l'Angleterre qui a terrassé Saint-Marin 10-0 et la Suisse, large vainqueur 4-0 de la Bulgarie. En revanche, petite surprise, les champions d'Europe italiens devront passer par les barrages. Ils ont été tenus en échec par l'Irlande du Nord, 0-0. Ce soir, ce sont les Pays-Bas qui jouent leur avenir contre la Norvège. Et puis en Amérique du Sud, l'affiche de la nuit, c'est évidemment Argentine-Brésil. Messi sera là, à l'inverse de Neymar, blessé.
De la voile maintenant avec un point sur la Transat, Jacques Vabre.
Oui, à mi-course, Franck Camas et Charles Caudrelier continuent de mener la flotte à bord de leur maxi trimaran Edmond Rothschild. Ils viennent de dépasser l'équateur. Chez les monocoques Imoca, c'est le duo d'Alain Meillat qui est en tête. Mais tous ces voiliers vont beaucoup moins vite que prévu à cause des conditions météo. Francis Le Goff est le directeur de la course.
Ce sont des conditions un peu étonnantes pour cette période de l'année. Avec ce peu de vent, la bagarre elle est intense. Il y a énormément de changements de leaders. Il y a beaucoup de stratégies. On l'a vu au passage des Canaries notamment. Donc ça rend la course encore très très intéressante.
Les premiers bateaux sont attendus ce week-end à Fort-de-France en Martinique.
Un peu de tennis pour terminer, Martin.
Oui, avec le Masters de Turin et l'entrée en lice hier du numéro 1 mondial Novak Djokovic, tombeur du Norvégien Rude en 2-7. Aujourd'hui, Medvedev et Zverev peuvent déjà se qualifier pour les demi-finales.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser au secteur du transport aérien, à la croisée des chemins entre retour des commandes d'avions, trafic passagers encore en berne et réduction des émissions de CO2. On en parle dans un instant avec le consultant en aéronautique Jean Serra. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est consultant en aéronautique.
Bonjour Jean Serra.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Il y a un an, Airbus annonçait la suppression de 15 000 postes, dont un tiers en France, pour faire face à la pire crise de son histoire. L'État mettait alors 15 milliards d'euros sur la table pour sauver la filière. Et voilà que depuis 48 heures, au salon aéronautique de Dubaï, ce même Airbus décroche contrat sur contrat. On en est ce matin à 366 avions commandés pour 35 milliards d'euros prix catalogue. Le contraste peut surprendre, vous ne trouvez pas ?
Oui, oui, tout le monde a été très étonné de cette reprise qui est absolument merveilleuse, entre autres avec ce qui vient de se passer au Salon de Dubaï, où effectivement il y a eu trois commandes, une colossale par Indigo Partner, qui a commandé 255 avions, une autre par Air Lease Corporation, qui a demandé 111 avions, et Emirates, qui a demandé deux Airbus 330 ravitailleurs. Donc c'est une commande assez gigantesque.
Est-ce que pour autant, Airbus est tiré d'affaire ? D'après ce que dit son patron ce matin dans les Échos, non.
Airbus a un problème technique à résoudre déjà, parce que oui, il y a des commandes, mais il va falloir maintenant que la construction, entre autres, des avions suive le nombre de commandes qui sont présentées. Donc là, pour l'instant, il y a des engagements sur des avions, l'achat d'avions. Est-ce que ces commandes tiendront dans le temps ? Tout le monde l'espère. Deuxième problème purement technique, c'est quelle va être la capacité industrielle d'Airbus, de Safran et tout, de répondre à la construction de ces avions, au nombre important de construction de ces avions. Donc effectivement, il y a des problèmes techniques. Mais je reste naturellement optimiste. L'aviation va redémarrer, va se développer, et Airbus, Safran et les différents prestataires vont sortir leur épingle du jeu.
C'est toute l'ironie de la situation. C'est qu'après avoir licencié à tour de bras l'année dernière, Airbus, Boeing et tous les autres entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre. Ça touche encore davantage les sous-traitants.
Tout à fait. En ce moment, il y a un gros problème. Si vous voulez, c'est l'éternel problème des crises. Oublions le fait que cette crise s'appelle la Covid. Prenez par exemple lorsqu'il y a eu le problème des subprimes, tout ce qui s'ensuit. Il y a une crise. Généralement, vous avez une chute verticale, que ce soit financière, que ce soit au niveau des emplois. Vous avez une chute verticale pendant X temps, X mois, peut-être un an, deux ans. Et ensuite, le temps que l'on revienne au même niveau de production, il peut y avoir un délai de 3-4 ans, peut-être des fois jusqu'à 5 ans. Donc là, ce que l'on espère, c'est qu'au niveau de la production, la capacité de production, la capacité d'embauche, de formation des gens, on puisse être dans un créneau qui soit viable dans disons d'ici de fin 2022, début 2023. Quoi, voilà.
Alors pour l'heure, en Europe, on n'en est qu'à la moitié du trafic aérien d'avant crise. Est-ce que ce n'est pas illusoire de vouloir retrouver le nombre de passagers d'il y a 2 ans, alors que dans le même temps, le monde a quand même changé, avec notamment l'essor du télétravail?
Oui, mais je suis persuadé que les gens vont vouloir continuer à se déplacer, à aller voyager, à voir d'autres pays, d'autres continents. Il y a également effectivement le télétravail, mais il y a certains échanges qui ne peuvent se faire que au contact personnel entre les différents intervenants. Donc je reste confiant sur le besoin et l'envie également de voyager. Donc je pense que le trafic va remonter. On estime par exemple au niveau d'Air France qu'on pourrait retrouver le nombre de passagers qui était superbe de 2019 aux alentours de 2023, au plus tard 2024. Donc maintenant, à nous d'être prêts pour répondre à ces futures demandes.
Il y a un autre défi majeur pour le secteur aérien, c'est celui de la neutralité carbone. Le secteur s'est fixé à la date de 2050. C'est très ambitieux, sachant qu'aucune technologie à ce jour ne permet d'y arriver. C'est trop ambitieux selon vous, Jean Serra ?
Alors, si on parle de zéro, ça me paraît effectivement difficilement réalisable.
Parce que l'avion électrique, l'avion à hydrogène, tout ça, pour l'instant, c'est que sur le papier.
Non, non, non. L'avion électrique, déjà, on est arrivé à faire voler des avions jusqu'à 4, 5, voire 10 personnes à bord uniquement en propulsion.
Oui, on est encore loin d'un Airbus A330 quand même. Hein.
On est très loin d'un Airbus A330 et en plus je vais être très clair avec vous, il y a un problème majeur avec l'électricité. On est à peu près certain que d'ici 2030 on sera capable de faire des avions de 50 voire 60 passagers entièrement électriques pour des vols, on va dire courts, moyens, courriers. Par contre pour des avions plus importants avec des capacités de 300 passagers, on a un problème majeur, c'est le poids des batteries. On arrive à un poids des batteries qui fait que l'avion n'est plus rentable. On ne peut plus le faire voler supérieur à 60 ou 70 passagers à bord sur une distance assez longue.
Donc il reste maintenant beaucoup de défis techniques à accomplir et on reviendra vers vous quand tout cela aura avancé. Merci beaucoup infiniment Jean Serra, consultant en aéronautique, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Très bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Il est 6h17, vous restez avec nous dans un instant, la partition de Dr Dre.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre réveil. Il est 6h20, voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Leprince.
103e congrès des maires à partir d'aujourd'hui à Paris pour élire leur nouveau président. Deux candidats en lice, David Lisnard, héritier du sortant François Baroin, et Philippe Laurent, décrit comme Macron compatible. Du jamais vu depuis 2 mois, le taux d'incidence lié à l'épidémie de Covid grimpe en France à plus de 100 cas pour 100 000 habitants. La Pologne hausse le ton et annonce la construction d'un mur à partir du mois prochain à la frontière avec la Biélorussie où sont actuellement massés des milliers de migrants. Long de 180 km, il coûtera 353 millions d'euros.
On termine avec votre partition, Ombline. Il a été l'un des plus grands artisans du rap américain West Coast, comprenez le rap made in Californie. Grâce à 2 albums et sa capacité à détecter des nouveaux talents, Dr. Dre est devenu le producteur le plus influent de l'histoire du hip-hop dans les années 90.
Tout le monde s'accorde à dire que c'est lui qui révolutionne le gangsta rap, genre irrévérencieux qui mêle dans les paroles violence, argent et haine de la police dans la banlieue sud de Los Angeles. Dr. Dre façonne un nouveau son, la G-Funk, la gangsta Staff Funk, des histoires de gangsters rappés sur des samples de morceaux des années 70 joués sur des synthétiseurs analogiques.
En 1992, Dr. Dre sort son premier album, The Chronic.
Un an plus tôt, il a créé avec son ami proche Suge Knight le label Death Row Records qui s'apprête à signer 2 futures légendes, Tupac et Snoop Dogg. Très vite, ce laboratoire du rap à l'Est s'impose comme une place forte du hip-hop, sérieuse rivale des labels de l'Ouest à New York. Cette guerre factice entre côte Pacifique et côte Atlantique va aboutir aux assassinats de Tupac et de The Notorious Big, des événements tragiques qui pousse Dr. Dre à s'éloigner de Death Row Records pour fonder sa propre maison de disques Aftermath.
Dr. Dre se recentre sur ses productions et peaufine la recette qui a brillamment fonctionné, il faut le dire, sur son premier disque.
Oui, il joue avec les codes du sampling, il mélange les samples, ses boucles musicales piochées sur des morceaux déjà existants, plus ou moins datés, adaptés. Il adapte des lignes mélodiques, il fait rejouer les extraits en studio, il ajuste le rythme sur le flow de ses rappeurs, le flow tranquille de Snoop Dogg notamment. Et puis Dr. Dre s'entoure d'une armée de musiciens et de producteurs. Il s'affranchit des règles classiques de la fabrication d'un rap jusqu'à s'inspirer d'une chanson de Charles Aznavour.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse.
Et Dr. Dre en profite pour mettre en avant son nouveau poulain Eminem.
Ce retour de Dr. Dre au sommet en 1999, son ancien collègue Suge Knight a du mal à l'avaler.
Ouais, Suge Knight, l'histoire est connue, hein, Suge Knight va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Une guerre ouverte va s'enclencher, des batailles judiciaires vont s'enchaîner, notamment autour du nom du 2e album de Dr. Dre. Il voulait le présenter comme la suite du premier de Chronique. Le producteur finit par céder et le baptise simplement 2001 avec un disque. Dr. Dre compulse 10 ans d'innovation dans le hip-hop. Still Dre Day, nigga, AK, nigga, though I've grown a lot.
lie, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on pay,
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell,
me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat.
Dr. Dre et Snoop Dogg avec Still Dre, extrait de l'album 2001, sorti il y a 22 ans, le 16 novembre 1999. Depuis, le puissant producteur est devenu un éminent businessman. Dr. Dre a créé en 2006 sa marque de casque audio Beats, qu'il a revendu 10 ans plus tard à Apple pour 3 milliards de dollars. Et il prépare un biopic sur Marvin Gaye. Beaucoup avant lui se sont cassés les dents sur ce projet. Et bien, Dr. Dre a obtenu de la famille les droits des chansons. On attend ça avec impatience.
Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous. Faites rebondir votre voiture, parce que dans un instant, votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, merci d'avoir choisi Europe 1 et on se retrouve évidemment demain matin.
Dès 5h du matin, oh oui. Bon pied, bon oeil. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.